Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Villon à ce micro au sommaire de cette édition du lundi 18 mars 2024. Dans le nord-ouest du Nigeria, plus de 100 personnes enlevées lors de deux attaques. Au Sénégal, c'est la dernière semaine de campagne pour les 19 candidats à la présidentielle de dimanche. Le Niger met fin à sa coopération militaire avec les États-Unis.
Une tendance, c'est une tendance réaliste qui prêche la coopération avec les jeunes. La tendance est de promouvoir les valeurs et de promouvoir la démocratie.
Michael Jerkin, politologue américain, nous dira dans la partie magazine ce qui n'a pas marché. Avec les divergences entre Israël et les États-Unis, nouvel entretien téléphonique aujourd'hui entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu. En Russie, Vladimir Poutine remporte un cinquième mandat avec 87,28%. Des suffrages, ne manquez pas notre page fort, ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. Et c'est avec le Nigeria que nous commençons. Plus de 100 personnes ont été enlevées lors de deux attaques distinctes dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Yakuba Ouedraogo.
Un habitant de Kajuru Station, Arisu Dari, a déclaré que des groupes d'assaillants, connus localement sous le nom de bandits, ont pris d'assaut le village vers 22h, et ont fait du porte-à-porte pour enlever les habitants. Il ajoute que samedi, d'autres personnes ont été enlevées à Dogon Noma, à une dizaine de kilomètres. La semaine dernière, des hommes armés ont enlevé des dizaines de personnes dans un autre village du district de Kajuru. Début mars, plus de 250 élèves ont été enlevés dans une école du village de Kuriga. Cette vague d'enlèvement met à l'épreuve le président Bola Ahmed Tinubu, qui a promis de s'attaquer à l'insécurité. La Société nigériane de conseil en gestion des risques SBM, Intelligence, a déclaré avoir enregistré 4 777 personnes enlevées depuis l'entrée en fonction de M. Tinubu en mai 2023. Dans le nord-ouest du Nigeria, les gangs criminels procèdent souvent à des enlèvements ciblant des écoles, villages et autoroutes où ils peuvent rapidement enlever un grand nombre de personnes en échange d'une rançon.
Au Sénégal, à une semaine de la présidentielle, les 19 candidats redoublent d'efforts pour rallier les suffrages des électeurs. L'opposant Ousmane Sonko, son candidat Bassirou Diomaye Faye et le porte-étendard du pouvoir, l'ex-premier ministre Amadou Ba, sont dans le sud du pays. Nani Talani.
L'opposant Ousmane Sonko et le candidat de sa coalition Bassirou Diomaye Faye se sont rendus ce week-end dans le sud du pays, poursuivant leur campagne électorale moins d'une semaine avant le vote. Ils ont été accueillis par des centaines de partisans à la station côtière de Cap Skyring en Casamance. Son candidat désigné, Bassirou Diomaye Faye, a fait part de son projet d'un Sénégal souverain, un Sénégal de justice, un Sénégal de prospérité. L'ancien Premier ministre Amadou Ba fait campagne sous la bannière de l'APR, le parti au pouvoir, et se trouve aussi dans le sud avec l'ambition de mobiliser ses partisans. Il a dénoncé l'attaque calomnieuse de Sonko, qu'il a qualifié de président des pays étrangers s'il était élu, accusant aussi M. Ba d'avoir dissimulé la corruption. Le sud du pays est particulièrement courtisé en cette fin de campagne, avec la présence remarquée de figures majeures de la course. Les observateurs appellent à une campagne apaisée et transparente. Le verdict des urnes est attendu le soir du dimanche 24 mars.
Le Parlement gambien débat ce lundi d'une proposition visant à abroger l'interdiction des mutilations génitales féminines, ce qui, en cas d'approbation, constituerait un rare pas en arrière dans les efforts pour lutter contre l'excision. L'interdiction des mutilations sexuelles en Gambie, adoptée sous l'ancien président Yahya Jammeh, s'est heurtée à des réticences dans ce pays, à majorité musulmane en particulier des depuis l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow en 2017. Le Burkina Faso a signalé un foyer de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 dans une ferme située dans la capitale Ouagadougou, a déclaré aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé animale. Le virus, également appelé grippe aviaire, a tué 441 oiseaux sur un troupeau de 641 dans un rapport citant les autorités locales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont entretenus ce lundi. Il s'agit de leur premier appel depuis plus d'un mois dans un contexte de tensions croissantes liées à l'offensive israélienne à Gaza. Le point avec Eric Manirakiza.
Les discussions ont porté sur les derniers développements en Israël et à Gaza, particulièrement la situation à Rafah et les efforts déployés pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza, a déclaré la Maison-Blanche, qui a promis de donner plus de détails sur cet appel ultérieurement. Les deux hommes se sont entretenus la dernière fois le 15 février. M. Biden s'est montré de plus en plus critique à l'égard du nombre de morts palestiniens et de la situation humanitaire désastreuse à Gaza. M. Netanyahou a rejeté les pressions exercées par Washington et a déclaré qu'Israël poursuivrait son projet d'offensive dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, afin d'éliminer le Hamas. M. Biden a également fait l'éloge dans mon discours prononcé la semaine dernière par le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, appelant à de nouvelles élections en Israël, ce que Tel Aviv avait estimé que cet appel était totalement inapproprié.
En Haïti, une quinzaine de corps sans vie ont été retrouvés ce lundi dans une banlieue aisée de Port-au-Prince où des membres de gangs mènent des attaques depuis l'aube. Les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées restent pour le moment inconnues, mais des habitants ont affirmé que des bandits armés sèment la terreur depuis l'aube à Laboule et Thomassin, deux quartiers de la commune de Pétionville situés en banlieue de Port-au-Prince. Ils ont attaqué une banque, une station d'essence et des résidences privées. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos ce lundi pour évoquer la situation en Haïti. Washington dit espérer que le Conseil de transition en Haïti sera prêt dès ce lundi. Moscou s'est félicité aujourd'hui de la victoire écrasante de Vladimir Poutine à la présidentielle russe, un résultat présenté comme la preuve d'une union nationale. Sa réélection a aussi suscité de nombreuses réactions dans le monde. Les précisions de John Lindon.
Le président russe a récolté 87,28% des voix sur l'ensemble des suffrages dépouillés en Russie, soit 10 points de plus qu'en 2018. C'est un indicateur record, a proclamé la chef de la commission électorale. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a salué un résultat exceptionnel et une confirmation du soutien du peuple russe à son président. Le dirigeant chinois Xi Jinping a assuré que ce résultat prouve le plein soutien des Russes à Poutine, tandis que le président iranien Ibrahim Raisi a vu une solide victoire. Les dirigeants du Venezuela, de l'Inde, du Nicaragua, de Cuba et de Bolivie ont aussi salué la réélection de Poutine. Berlin, Londres, Paris et le chef de la diplomatie européenne ont de leur côté fustigé un vote sous contrainte, sans opposition et en pleine répression.
Washington dénonce un processus incroyablement antidémocratique dans un communiqué du Département d'État. La Corée du Nord a lancé pour la première fois depuis deux mois, lundi, des missiles balistiques en direction de la mer, alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken participait dans la journée à Séoul à une conférence organisée par le président sud-coréen. D'après l'armée sud-coréenne, plusieurs missiles à courte portée ont été tirés au large de la côte orientale de la Corée du Nord depuis la capitale Pyongyang, parcourant une distance d'environ 300 km. Elle a dénoncé une provocation évidente, ajoutant partager avec les États-Unis et le Japon les informations dont elle disposait. La lauréate du prix Nobel de la paix iranienne, Narges Mohammadi, incarcérée depuis 2021 à Téhéran, a appelé aujourd'hui l'ONU à exercer une pression systématique et globale sur son pays face à l'intensification de la répression. Sa déclaration a été lue par l'ONG Ensemble contre la peine de mort lors de débats au Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'Iran, durant lesquels des dizaines de pays et d'ONG ont dénoncé l'ampleur des violations des droits humains. Une mission d'enquête mandatée par les Nations Unies a conclu aujourd'hui que la mort de Mahsa Amini, décédée lors de sa détention par la police des mœurs en Iran, résultait de faits de violence. La mission d'enquête a constaté que les manifestations qui ont suivi ont été marquées par des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires, des actes de torture ainsi que des violences sexuelles. La mort en septembre 2022 de Mahsa Amini, une Irakienne kurde de 22 ans, alors qu'elle était détenue pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire iranien, a déclenché des mois de manifestations contre le régime.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Kalani.
Les détenteurs d'obligations internationales du Ghana ont conclu des accords de non-divulgation avec Accra. Cette étape marque le début de négociations formelles pour le Ghana, qui cherche à restructurer plus de 13 milliards de dollars d'obligations internationales et réduire de 10,5 milliards de dollars les remboursements de sa dette et les frais d'intérêt entre 2023 et 2026 dans le cadre d'un programme de réforme de 3 milliards de dollars du FMI. Le Kenya prévoit de réduire son déficit budgétaire pour l'exercice de juillet 2024 à juin 2025. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Finances dans sa déclaration de politique budgétaire. Le déficit sera réduit à 3,9% du produit intérieur brut contre 4,9% au cours de l'exercice financier en cours. Pour terminer, le Maroc a récolté 294 tonnes de cannabis cette année par le biais de 32 coopératives regroupant 430 agriculteurs dans les régions montagneuses du nord du Rif à Al-Seima, Taounat et Chefchaoun. C'est la première récolte légale depuis que Rabat a approuvé la culture et l'exportation du cannabis à des fins médicales et industrielles, mais également pour améliorer les revenus des agriculteurs et les protéger des trafiquants de drogue qui dominent le commerce du cannabis.
Place maintenant au soir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rouget, bonsoir à tous.
Balle au panier à la une, la conférence Kalahari a livré ses deux qualifiés pour les play-offs de la Basketball Africa League.
Oui, après un peu plus d'une semaine de compétition en Afrique du Sud, les Marocains de Fus de Rabat, vainqueurs 84 à 75 des Sud-Africains de Cape Town Tigers et les Angolais de Petro de Luanda vont représenter cette conférence à Kalahari à la phase finale prévue à partir de fin mai prochain à Kigali au Rwanda. Les Cape Town Tigers, eux, devront attendre la fin des conférences du Nil et du Sahara pour savoir s'ils rejoindront Kigali. La conférence du Nil débute ses matchs le 19 avril.
Ici en NBA, Kyrie Irving offre la victoire à Dallas à la sirène.
Un superbe flotteur, main gauche du magicien, a permis à Dallas d'arracher la victoire 107-105 face au champion Denver qui restait sur 5 succès consécutifs. Kyrie Irving permet ici au Mav de doubler Phoenix à la 7e place à l'ouest. De son côté, le pivot de Miami, Bam Adebayo, a lui aussi régalé d'un buzzer-beater à 3 points pour un succès 104-101 du Heat face aux Detroit Pistons, grâce notamment à 30 points de Duncan Robinson. Le géant français Victor Wembanyama, 2m24, a porté les San Antonio Spurs au succès contre les Brooklyn Nets, 122-115 après prolongation. Wemby a compilé 33 points, 15 rebonds, mais aussi 7 passes décisives et 7 contre. Privé de Gianni Antetokounmpo en raison d'une blessure au jicho jambier, les Milwaukee Bucks ont tout de même éteint les Phoenix Suns 140-129. Les Boston Celtics restent largement en tête grâce à leur succès contre Washington 130-104.
Football, le Maroc s'arrache une autre pépite.
Après Brahim Diaz, Luis Velez, Marouza, joueur du Betis Séville, a décidé de jouer avec les Lions de l'Atlas selon le quotidien espagnol AS. Né en 2009 d'un père espagnol et d'une mère marocaine, il a joué auparavant en équipe U15 d'Espagne. Depuis Casablanca, Amine Birouk nous parle de ses nouvelles recrues marocaines.
Le choix de Brahim Diaz pour son pays d'origine avait créé une polémique en Espagne. Il avait poussé les journalistes à mettre en difficulté le sélectionneur Luis de la Fuente. Et le joueur avait même accompli un exercice de communication dans le courant de la semaine pour expliquer son choix. Il y aura également d'autres jeunes issus du football espagnol. Je pense en particulier aux jeunes du Real Madrid junior, Youssef El Khedim, 18 ans, qui découvrira l'ambiance d'un groupe professionnel, d'une sélection nationale quatrième de la dernière Coupe du Monde. Elias Arromage de Villarreal, le retour du virevoltant Sofiane Rahimi, qui marche sur l'eau en Champions League asiatique avec son club émirati de l'Ain, qui a déposé l'équipe de Nasser de Cristiano Ronaldo avec un Rahimi qui a marqué lors des deux matchs, 3 buts. Et donc voilà, un air de changement, un air de renouveau dans cette équipe du Maroc.
Merci Amine Birouk.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les militaires au pouvoir au Niger ont dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis qui dispose d'une base de drones dans ce pays. En réaction, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a fait savoir sur X que Washington avait pris connaissance du communiqué du régime de Niamey et qu'il faisait suite à des discussions franches sur les préoccupations des États-Unis concernant la trajectoire de la junte. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint ici à Washington Michael Churkin, politologue à 14N Strategies.
Les États-Unis cherchaient à garder un bon rapport avec le Niger, avec la junte, mais le problème, c'est que le gouvernement américain est vraiment tiré entre deux tendances. Une tendance, c'est une tendance réaliste qui prêche la coopération avec la junte. L'autre tendance, c'est de promouvoir les valeurs et de promouvoir la démocratie. Mais entre ces deux tendances, le gouvernement ne sait pas comment résoudre cette tension. Et le gouvernement arrive à couper la bébé en deux. C'est-à-dire qu'on essaie de communiquer à la junte une volonté de travailler avec, mais on ne peut pas s'empêcher aussi de critiquer la junte en disant qu'il faut avoir des élections, il faut avoir une transition démocratique, etc. Aussi, les Américains disent d'un côté, oui, on accepte vos choix et votre souveraineté, mais à la fois, on dit que oui, mais il ne faut pas travailler avec les Russes ou les Iraniens ou ceci, cela. Et donc, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ne va pas prêcher, mais on prêche.
Les États-Unis avaient semblé avoir une position plus conciliante que la France, par exemple.
Oui, donc la France voulait être dure en disant qu'il faut être dur avec la junte, il faut la mettre à pression, il faut arrêter d'offrir de l'aide quelconque. L'approche américaine, on cherchait un compromis, on cherchait d'être plus conciliant pour préserver les rapports avec la junte, mais aussi pour préserver les bases de drones qui se trouvent au Niger. Mais évidemment, cela n'a pas marché.
Quelles sont les options qui s'offrent aux États-Unis maintenant?
Bon, maintenant, on n'a pas beaucoup de bonnes options. Il faut négocier le départ des troupes américaines. Il faut négocier la fermeture des bases. Et ça reste une grande question. Qu'est-ce que les Américains vont faire avec les bases? Est-ce qu'on va donner les clés aux Nigériens? Je ne sais pas si on va faire ça, parce qu'on a peur que si on donne les clés aux Nigériens, les Nigériens vont donner les clés aux Russes. Ça va être un événement qui serait très mal à digérer ici à Washington.
Alors, au vu des changements qui s'opèrent dans le Sahel, quelle devrait être la posture des États-Unis? Est-ce qu'il faut abandonner la région au profit d'autres puissances ou comment est-ce qu'il faut s'y prendre? C'est une sorte de dilemme au vu de...
Oui. Bon, on va rester sur place. Les ambassadeurs restent sur place, les embassies restent là. Il faut toujours trouver des moyens de travailler avec. Mais cette assistance va rester à une petite échelle. Et donc, mais on travaille, on communique en espérant des meilleurs jours à l'avenir. Donc, il ne faut pas les abandonner. Mais il ne faut pas avoir de l'espoir qu'il y aura un changement bientôt, dans l'avenir proche.
Michael Churkin, politologue à 14N Strategies.
Alexandrine Cronogno avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Niger rompt sa coopération militaire avec les États-Unis. La junte au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez. Quelles implications en termes de sécurité nationale pour le Niger? Quels sont les possibles scénarios futurs en termes de relations diplomatiques entre le régime militaire et les États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et VOAfrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Au Nigeria, il se pose un dilemme climatique brûlant. Dans certaines régions, les Nigériens ont recours au charbon de bois, alors que le coût du gaz de pétrole liquéfié, également connu sous le nom de gaz de cuisine, a continué de monter en flèche. Dans le centre-nord du pays, des hommes abattent les arbres que les charbonniers utilisent pour produire du charbon de bois. C'est une énorme industrie. Le reportage de notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Philippe Adenia, âgé de 70 ans, est père d'une grande famille dans le village d'Ucha, dans l'état de Benue, au centre-nord du Nigeria. Depuis 20 ans, il fabrique du charbon de bois pour subvenir aux besoins de sa famille. Le secteur de la coupe et la fabrication du charbon est en plein essor. Les Nigériens se tournent vers le charbon de bois et le bois de chauffage pour faire face au prix exorbitant du gaz de cuisine. Le charbonnier explique la procédure de fabrication.
Après avoir coupé les arbres, on trouve des jeunes. Moi, j'ai déjà mes propres jeunes qui m'aident. Ils viennent et nous rassemblons tout le bois coupé. Nous le recouvrons avec du sable et peu importe la taille, entre 6 à 7 jours, tout est calciné. Je le mets dans les sacs et mes clients viennent l'acheter.
Auparavant, 50% de la superficie du pays était couverte d'arbres. Mais aujourd'hui, 90% de ces arbres ont été abattus. De nombreux sacs de charbon de bois peuvent être vus le long des grands axes routiers en attente d'acheteurs, signe d'une demande accrue. En raison de la hausse vertigineuse des prix du gaz, beaucoup de Nigériens se sont tournés vers le charbon. Mohamed Tijani Ibrahim est vendeur de charbon.
La raison pour laquelle les gens aiment utiliser du charbon de bois est que le charbon ne salit pas votre marmite. Votre marmite restera toujours propre. Deuxièmement, il n'y a pas d'électricité dans notre communauté actuellement et le prix du gaz est élevé. Les gens préfèrent donc utiliser du charbon de bois pour le moment.
À cause de la forte demande, le prix du charbon de bois a également augmenté et certaines personnes se tournant vers le bois de chauffage. Mohamed n'est pas le seul commerçant du charbon dans cette localité. Sa sœur Sarahatou Abdoulaye vend aussi du charbon pour aider la famille à joindre les deux bouts.
Nous disons merci à Dieu. Actuellement, nous vendons très bien plus qu'avant. Et maintenant, les gens achètent du charbon de bois à cause du prix élevé du gaz. Avant, on vendait un sac de charbon de bois à 2000 naira, mais aujourd'hui, il est vendu à 5000 naira. Et Dieu merci, les gens viennent en grand nombre pour acheter. Ce commerce de charbon de bois m'aide avec ma famille.
Le bois de chauffage, qui sert désormais de combustible principal pour la cuisine de la majorité des Nigériens, provient de l'abattage illégal d'arbres. De nombreux résidents préfèrent se servir du charbon de bois pour la cuisine. Soule Tehan, enseignante de profession, utilise désormais le charbon de bois.
Quand le prix du gaz est devenu trop élevé, il n'y avait pas d'autre alternative, alors je me suis tournée vers le charbon de bois. Ce n'est pas parce que j'aime utiliser du charbon de bois. Le charbon de bois me prend beaucoup de temps à cuisiner.
Classé au 9e rang mondial, le Nigeria possède la plus grande réserve de gaz d'Afrique. Malgré l'abondance, le prix du gaz de cuisine a continué d'augmenter. Gilbert Tamba, de retour de Benue pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Togo, la culture de la noix de cajou connaît une certaine embellie. Les productions ont atteint près de 40 000 tonnes en 2023, une hausse de plus de 120% sur une décennie. Cependant, beaucoup de défis sont à surmonter par les acteurs pour un meilleur développement de la filière. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Depuis la reprise en main de la filière Anacard au Togo il y a une dizaine d'années, la production de la noix de cajou connaît une progression qui enchante les producteurs. La production est en effet passée en 5 ans de 22 937 tonnes en 2019 à 38 880 tonnes en 2023, soit une augmentation de 70%. Selon Kweziwezu Alassane, président des pépiniéristes du Togo, le pays vient de loin, d'autant que 7000 hectares d'anacardes avaient été abattus dans le passé.
En 2014, l'état des lieux montre que l'anacarde au Togo produit en moyenne 390 kg l'hectare. Et c'est vraiment en deçà de ce que fait le Bénin, le Ghana, les autres pays producteurs. Et donc, des missions ont été faites vers le Ghana qui a autorisé que l'on puisse avoir les plants issus des centres de recherche. Et parce qu'au niveau du Ghana, ils sont déjà à une tonne à l'hectare. Donc nous avons pu obtenir cela qu'on a aussi planté chez nous.
Une dizaine d'années plus tard, les producteurs et tous les autres acteurs de la filière se frottent les mains. Komlan Gozan, président du conseil d'administration du conseil interprofessionnel de la filière Anacard au Togo.
La filière Anacard se porte très bien. Nous faisons plus de 17 à 20 milliards de chiffre d'affaires à l'exportation par an. Donc c'est une filière qui a créé beaucoup d'emplois, qui a réduit le chômage au Togo parce que nous avons des unités de transformation qui emploient chaque année plus de 2000 à 3000 dans l'ensemble.
Cependant, la filière fait face à des défis de vieillissement du verger, de la qualité des produits et surtout de la transformation des noix. Anani Padenou, membre du conseil de coordination de la filière, demande à l'ensemble des acteurs de s'investir pour relever ces défis.
Les défis, ce n'est pas au gouvernement seul de les relever. Nous sommes convaincus que si nous nous engageons à travailler ensemble, nous pouvons relever les trois défis majeurs de la feuille de route qui sont la production à grande échelle. Et là, c'est en termes de quantité et aussi de qualité, la transformation agro-industrielle et le développement des exportations.
À cela, il faut ajouter le défi de la consommation du fruit et de la noix d'anacarde qui n'a pas bonne presse auprès de la population. Komlan Gozan, président du conseil interprofessionnel de la filière anacarde au Togo.
L'anacarde, c'est un produit agricole comme tous les autres produits. Malheureusement, c'est un produit qui est diabolisé. Il y a trop d'interdits autour de ce produit, des mythes. Que quand tu le prends, tu bois de lait, tu prends le sucre, tu meurs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les législateurs américains ont réagi à une série de remarques formulées samedi par le candidat républicain Donald Trump, alors que le président démocrate Joe Biden n'était pas en campagne ce week-end. Il a également fait les gros titres. Véronica Balderas Iglesias de la VOA a fait le point, le récit avec Lionel Gaïma.
L'ancien président républicain Donald Trump a fait les gros titres pour plusieurs remarques qu'il a faites lors de sa campagne samedi à Dayton, dans l'Ohio. L'une d'entre elles est intervenue alors qu'il critiquait la construction par la Chine d'usines de fabrication de voitures au Mexique.
Nous allons imposer des droits de douane de 100% sur chaque voiture qui franchira la frontière et vous ne pourrez pas vendre ces voitures si je suis élu. Maintenant, si je ne suis pas élu, ça sera un bain de sang pour tout le monde. Ça sera la moindre des choses, un bain de sang pour le pays.
La campagne de M. Trump a souligné que ce commentaire ne concernait pas la violence politique. Le sénateur républicain Bill Cassidy a donné son avis lors de son passage à l'émission Mythe de presse de la chaîne NBC.
Le ton général du discours est la raison pour laquelle de nombreux Américains continuent de se demander si le président Trump devrait être président. Cela dépendra de comment ça va être interprété. Il se présente contre Biden, donc Biden va dire qu'il s'agit de violence politique. Ses défenseurs vont dire qu'il s'agit d'un désastre économique.
Le député républicain Mike Turner de l'Ohio, qui a participé à l'émission This Week sur ABC, a donné son avis sur les propos de Trump qualifiant certains migrants de ne pas être humains et sur la manière dont Biden a traité les passages illégaux à la frontière. Mike Turner, député républicain.
Je pense que le peuple américain n'est pas d'accord avec ces propos, mais je pense que les gens voient que Donald Trump est le seul candidat dans cette course qui sera capable de résoudre cette crise.
Lors de l'événement de campagne samedi, Donald Trump a également réitéré ses critiques à l'égard des politiques économiques du président Joe Biden et n'a pas manqué de souligner l'urgence de la situation en appelant ses partisans à se mobiliser pour les élections générales. Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle.
Je ne pense pas qu'il y aura d'autres élections dans ce pays si nous ne gagnons pas cette élection. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres élections et certainement pas des élections significatives. Nous ferons mieux de sortir. En fait, je dis que la date du 5 novembre, ne l'oubliez pas, sera la plus importante de l'histoire de notre pays.
La campagne du président Biden a également attiré l'attention des médias ce week-end car elle a franchi une étape importante en matière de collecte de fonds. Il dispose désormais de 155 millions de dollars. Sur cette somme, 53 millions de dollars ont été collectés au cours du seul mois de février. La nouvelle est tombée alors que Biden s'apprêtait à organiser un brunch pour des dirigeants catholiques dimanche à la Maison-Blanche à l'occasion de la fête de la Sainte-Patrick.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.